10 minutes chronique, une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Dans quelques jours, ce sera la rentrée des classes, l'occasion de revenir sur un épisode de l'histoire américaine dont les effets durent encore aujourd'hui. Celle de 9 lycéens noirs le 17 mai 1957 à Little Rock, en Arkansas, qui ont voulu user de leur droit à étudier dans une école jusque-là réservée aux Blancs. Thomas Negaroff, journaliste et historien, a publié un ouvrage en 2018 intitulé simplement « Little Rock 1957 ». Il y exprime les mécanismes d'un racisme profond et les manœuvres de ceux qui possèdent le pouvoir. Le 17 mai 1954, la Cour suprême des États-Unis a voté à l'unanimité contre la ségrégation raciale dans les établissements scolaires, la rendant inconstitutionnelle. 5 jours plus tard, la commission scolaire de Little Rock, dans l'Arkansas, publiait une déclaration approuvant cette décision. L'Arkansas, à cette époque, était un des États du Sud parmi les plus progressifs concernant les problèmes raciaux. L'école de droit de l'université d'Arkansas avait été intégrée en 1949, ainsi que la bibliothèque publique de Little Rock en 1951. Bien avant que la Cour suprême ordonne la procédure de l'intégration, la commission scolaire de Little Rock avait adopté, à l'unanimité, un plan d'intégration qui devait commencer en 1957, dès l'école secondaire. L'Association nationale pour la promotion des gens de couleur, la NAACP, avait cependant protesté dans la mesure où il était prévu que ce plan se déroulerait par étapes sans véritablement fixer la date réelle de l'intégration. Un juge fédéral avait alors rejeté cette contestation, affirmant que la commission scolaire procédait de manière progressive afin d'éviter des troubles dans la population. Au printemps 1957, 517 étudiants noirs habitent dans le quartier du lycée central de Little Rock, jusqu'alors réservé aux Blancs. 80 d'entre eux, répondant à un questionnaire, ont exprimé leur volonté d'y être intégrés à la rentrée. Après de nombreuses difficultés, ils passent devant une commission et 9 seulement sont reçus et inscrits pour la rentrée prochaine. Ce sont eux, les 9 lycéens, qui ont bouleversé l'Amérique. Immédiatement, des protestations s'élèvent, en particulier du côté des ligues de parents dont les enfants fréquentent le lycée, prétextant que laisser les enfants noirs entrer dans l'établissement réservé jusqu'alors aux enfants blancs va provoquer des violences et de graves problèmes. Finalement, le juge du district fédéral Ronald Davis ordonne l'intégration des 9 adolescents noirs dès le 4 septembre, jour de la rentrée. Cependant, le gouverneur de l'Arkansas, Orval Faubus, n'est pas d'accord. Il envoie la garde nationale pour les empêcher d'entrer dans l'établissement scolaire. Ce matin-là, le 4 septembre 1957, une centaine de gardes nationaux armés encerclent l'école secondaire centrale. Une foule de 400 civils blancs est là, massée, et commence à se déchaîner quand les étudiants noirs arrivent. Ils vomissent des injures racistes, et cette violence est terriblement menaçante. Les troupes de la garde nationale empêchent les élèves noirs de passer. L'une des 9 élèves se retrouve isolée, entourée par la foule qu'on dirait enragée. Elle a 15 ans. Elle s'appelle Elizabeth Eckford. Ce jour-là, bien malgré elle, elle devient célèbre et une des figures les plus respectées de l'intégration des Noirs dans les écoles des États-Unis. Voici un extrait du livre de Thomas Negaroff qui raconte ce moment. L'angoisse d'Elizabeth n'avait fait que s'accentuer en voyant la foule massée aux abords du lycée. Elle avait été un peu rassurée en voyant que les militaires laissaient passer sans difficulté les autres élèves blancs qui se dirigeaient vers l'entrée de l'établissement. Mais les soldats ne lui réservèrent pas le même traitement, la bloquant et l'orientant sur sa gauche, précisément où se trouvait l'essentiel de la foule. Élisabeth était surtout inquiète pour l'heure, qu'elle demanda à l'un des soldats. Il était 8h-6. Il ne fallait pas traîner. Elle reprit sa marche sans accorder trop d'importance à la foule, restée mystérieusement silencieuse, lorsque des soldats, les fusils croisés devant leur visage et celui de la jeune fille, lui signifièrent qu'elle n'avait pas intérêt à poursuivre son chemin. La principale entrée lui était désormais refusée. Pourtant, Blossom avait clairement indiqué que c'était par là que les nouveaux élèves devaient pénétrer dans le bâtiment. Élisabeth n'avait plus qu'à faire demi-tour et chercher une nouvelle entrée. Mais la foule s'était refermée derrière elle. Des adultes, mais aussi des lycéens, qui se serraient de plus en plus près d'Élisabeth, à portée de voix, de crachats et de coups. Prise au piège, la jeune fille tenta à nouveau de forcer le barrage formé par les soldats. L'un après l'autre, sans un mot, ils brandirent leurs armes qui se reflétaient dans les lunettes de soleil d'Élisabeth. Les cours ont commencé, se dit-elle alors. Soudain, quelqu'un cria « Aucune nègre n'entrera dans notre école !» Une autre voix s'éleva, lui hurlant de retourner dans les jupons d'Eleanor Roosevelt. Et plusieurs reprirent ce qui semblait être un cri de ralliement. « Lynchez-la ! Lynchez-la ! » Le cauchemar de la mère d'Élisabeth prenait forme. Les genoux d'Élisabeth commençaient à trembler. Elle cherchait désespérément dans la foule un visage amical auquel s'accrocher. Ses yeux s'arrimèrent à ceux d'une femme plus âgée. Son regard était doux et son délicat sourire lui parut plein de bienveillance. Mais un instant plus tard, les yeux de la vieille femme se plissèrent, sa bouche se déforma et un crachat en jaillit. Élisabeth conserva son allure droite et fière, ne laissant rien paraître de la peur qui la tenaillait. Mais elle marchait désormais sans but. Des reporters s'approchèrent d'elle et l'assaillirent de questions. Elle ne répondit pas quand on lui demanda son nom, son âge, si elle venait s'inscrire ou si elle était déjà inscrite. Elle ne prenait même pas la peine de tourner son visage vers ses interlocuteurs. Protégée par ses grandes lunettes de soleil, Élisabeth dérivait. Les cris parvenaient jusqu'à elle. « Renvoyez cette négresse dans la jungle !» Un groupe de jeunes filles se cala dans les pas d'Élisabeth. Deux d'entre elles avaient comme elle quelques livres sous le bras droit. Des lycéennes qui auraient dû être en cours. En lieu et place, elles marchaient derrière Élisabeth, le visage déformé par la haine. Et elles chantaient « 2, 4, 6, 8 »« Don't want to integrate » L'une d'entre elles paraissait hystérique. Elle criait fort et semblait physiquement menaçante. Elle ne portait pas de livre et sa robe blanche la boudinait. Ses cheveux étaient courts et noirs. Elle hurla « Rentre en Afrique !» À ce moment précis, Will Count, un jeune photographe qui travaillait pour l'Arkansas Democrat, prit une photo qui allait bientôt faire le tour du monde. Une fraction de seconde pour l'éternité. La jeune fille blanche et mystérieuse ne le resta pas longtemps. Dès le lendemain, on sut son nom. Hazel Bryan. C'est seulement le 23 septembre, grâce à l'intervention du président Eisenhower, que l'ensemble des neuf pourra entrer au lycée central de Little Rock. Mais c'est pour eux un calvaire qui commence. Ils s'appelaient Minnie Jean Brown Trickey, Gloria Ray Kalmark, Melba Patillo Bills, Thelma Mother Shedd, Ernest Green, Jefferson Thomas, Terence Roberts, et Carlotta Walsh Lanier. Le livre de Thomas Negaroff se termine par un post-scriptum qui nous montre que sous des apparences de progrès depuis les années 50, quelque chose ne va pas, que les démons sont toujours là et que les vieux prétextes ont la vie dure, sous couvert de décisions raisonnables. Retrouvons-nous le 8 septembre, 10 minutes chroniques dans Viva Culture sur Westrack Radio.